On est encore dans nos cultes d'été, hein, où on fait « Et président, ces messages ». Vivement qu'on arrive en septembre et qu'on puisse séparer les choses. L'enregistrement est lancé, Ethan ? Ouais, ok. Ouais, nous, on a passé, cet été, on a passé 15 jours à la montagne. Un vrai cadeau de Dieu, un appartement splendide, superbe, grand, super bien placé. Je vous dis pas ça pour vous faire baver, je vous dis ça pour partager la bénédiction qu'on a pu vivre. Tout ça a un prix juste incroyable. Enfin, le Seigneur a conduit les choses d'une manière particulière pour qu'on trouve ça. On a eu cet appartement à un prix auquel il est jamais loué d'habitude. Et il se trouve que, voilà, par hasard, cette année, c'était comme ça. Ils n'arrivaient pas à louer, ils ont baissé. Et on s'est dit, c'est pas possible, il va y avoir un truc qui cloche. Eh bien non, c'était juste un temps de grâce, vous savez, ces temps de grâce comme on en a souvent. Et donc ce chalet, il était très grand, il était sur deux niveaux, on avait un immense balcon plein sud, on avait une grande terrasse plein sud et on avait une vue imprenable en fait sur toute une vallée devant nous, là, très grande, très large, c'était juste même difficile à décrire tellement c'est beau, j'aurais dû vous mettre des photos. Toute la vallée de la Tarentaise qui est là jusqu'aux écrins qui étaient devant, c'était absolument splendide. Et en fait, on ne pouvait pas poser les yeux dehors, on ne pouvait pas sortir sans faire « waouh ». Et pendant 15 jours, on n'a pas arrêté de faire « waouh, mais quand même, merci Seigneur pour cette grâce qu'on a d'être ici et merci pour ta création qui est si belle ». Il n'y a pas une fois où ça ne nous a pas touché dans nos tripes, touché dans nos émotions à chaque fois qu'on a vu ça. Et pour nous, ce n'était pas possible de rester au niveau de juste savoir que ce type de paysage était beau. On était forcément émerveillés de ce type de paysage. Et puis, c'est un petit peu la même chose, je vous donne un autre exemple, c'est du teasing de message. Eva, elle a un petit livre où il y a des fruits devant, c'est ma fille que vous avez vue dans mes bras là tout à l'heure, qui est toute petite. Et puis bah, sur ce livre-là, elle a plein de fruits, donc elle apprend les différents fruits et puis elle les connaît presque tous, en français, en anglais, etc. Donc elle sait ce que c'est que les fruits. Et quand vous prenez ce livre-là avec elle, elle est capable de vous dire les fruits et elle est très contente de le faire. Mais si vous prenez le même fruit en vrai et que vous le mettez dans la bouche d'Eva, on lit plus la même chose dans ses yeux. Elle sait comment le fruit s'appelle, mais quand elle l'a dans la bouche, elle s'émerveille du goût de ce fruit-là. Pendant ces 15 jours de vacances, on a fait des randonnées où on n'a pas arrêté de trouver mais des framboises et des myrtilles à profusion, des framboises notamment. Et je crois qu'Eva, elle a cru comprendre que randonner, ça voulait dire manger des framboises. Et si vous voyez mais ses yeux... Quand elle voyait qu'on allait sur le bord parce qu'on avait trouvé quelque chose, elle commençait à enlever sa susu là et elle était déjà prête pour avoir sa framboise parce que ce goût de la framboise avait quelque chose de plus que la simple connaissance que ce fruit-là s'appelle une framboise. Et y a une différence entre savoir et connaître et il y a une différence avec s'émerveiller du fait de connaître. Et c'est ce dont je voudrais qu'on parle ce matin, parce que Paul, il a parlé de ce principe-là, en fait, pour nos vies spirituelles. Il en a parlé dans Éphésiens 1, et je voudrais qu'on lise les versets 17 à 23 ensemble. Un passage que vous connaissez probablement, mais sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête un peu ce matin. Donc Éphésiens 1, à partir du verset 17. « Je prie... que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Puis on va juste poursuivre, on s'arrêtera sur ces versets, mais j'avais envie de lire ceux qui suivent. Cette puissance dont on parle là, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » une prière de Paul, une longue prière de Paul en fait, hein, tout Éphésiens 1 est une seule phrase de Paul, une prière pour les Éphésiens qui s'adresse à Dieu. Et il commence par là, « Je prie le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, que le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. » Et j'aimerais qu'on commence par là, parce que c'est important de commencer par là, parce que c'est le début déjà, et parce que c'est juste que ce soit le début, il s'agit de l'esprit qui révèle. Et on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'est important de commencer par là. On ne peut pas connaître Dieu autrement que par révélation. Si on cherche un autre moyen de connaître Dieu, par la recherche de la connaissance biblique, par le temps passé devant Dieu, parce que c'est plus je vais passer du temps, plus je vais le trouver, eh bien tout ça participe à la connaissance de Dieu. Mais ça ne participe à la connaissance de Dieu qu'à partir du moment où, dans ces temps-là, que je sois en train de chercher dans la parole de Dieu, que je sois en train d'échanger avec mes frères et sœurs, que je sois en train d'écouter un message, que je sois en train de lire un livre, que je sois en train de passer du temps avec Dieu, que si, dans tous ces temps-là, l'Esprit est en train de faire une œuvre de révélation de qui est Dieu au travers de ces temps-là. Il n'y a aucune recherche qui arrivera jamais à découvrir Dieu. Parce que ce n'est pas l'homme qui s'élève, c'est Dieu qui agit pour se révéler. Et c'est important de commencer par là. Et c'est important que cette prière, elle commence par là aussi. Et ça nous montre l'importance de cette prière aussi. Paul prie vraiment que Dieu donne un esprit de sagesse et de révélation à ceux pour lesquels il est en train de prier. Et si Paul y prie pour ça, nous aussi, on doit prier pour ça. Nous aussi, c'est important. Nous aussi, on a besoin régulièrement. Et quand je dis régulièrement, c'est donc tous les jours, de dire « Seigneur », de faire cette prière de Paul, « Seigneur, accorde-moi encore cet esprit de sagesse et de révélation qui me fait connaître qui tu es. » N'imaginons pas que notre vie chrétienne fait qu'on appartient à Christ et que maintenant Dieu fait une œuvre silencieuse à l'intérieur de nos vies ou que les choses vont se faire juste comme ça. Mais prions avec humilité et demandons à ce que le Saint-Esprit œuvre dans nos cœurs. Et je suis heureux de ce qu'on a traversé ce matin et d'avoir pu regarder ensemble et chanter ensemble que Dieu fait une œuvre de transformation de nos cœurs. Pourquoi ? Parce que son Esprit est à l'œuvre en nous. Et donc on a besoin, comme Paul le fait pour les Éphésiens, de nous approprier cette prière et de la prier aussi. Seigneur, accorde-moi encore ton esprit de sagesse et de révélation qui me fait connaître qui tu es. Alors on dit un esprit de sagesse et de révélation, un esprit de sagesse, pourquoi ? Un esprit qui nous rend capable de comprendre les mystères de Dieu. Et quand je dis comprendre les mystères de Dieu, on est bien d'accord qu'on s'entend que c'est une connaissance qui est imparfaite et qui est incomplète aujourd'hui. Hein. 1 Corinthiens 13, 12 nous dit qu'on voit comme au travers d'un miroir, mais qu'alors nous verrons face à face, alors nous connaîtrons. D'accord ? Mais nous avons besoin aujourd'hui de cet esprit de sagesse qui petit à petit enlève la boue de nos yeux pour qu'on voit de mieux en mieux, pour qu'on voit de plus en plus vraiment qui est Dieu. Et cet esprit de révélation, bien sûr, parce qu'il ouvre nos yeux spirituels. L'objectif du début de cette prière, c'est vraiment Paul qui désire que les Éphésiens connaissent Dieu dans le sens d'une connaissance parfaite, c'est-à-dire une connaissance spirituelle, pas une connaissance intellectuelle. C'est vraiment la connaissance des merveilles, à la fois des propos et de l'œuvre de Dieu. Et tout ça découle de la connaissance de Dieu lui-même. Comme nous connaissons Dieu, nous connaissons ce qui jaillit de lui. Et pour cela, on a besoin du Saint-Esprit. Cet esprit de sagesse et cet esprit de révélation. Il nous est donné. Alors, osons ouvrir les mains, ouvrir nos cœurs et demander ces choses-là. Et puis, cet esprit de sagesse et de révélation, il nous fait connaître Dieu en faisant quoi ? En illuminant les yeux de notre cœur. Je prie qu'il illumine les yeux de vos cœurs. On peut passer vite là-dessus, mais pourtant c'est important aussi. Il n'est pas question dans la prière de Paul, de faire référence à une froide compréhension intellectuelle de qui est Dieu, de la connaissance de Dieu. Comme je disais tout à l'heure, on peut approcher une connaissance de Dieu par l'intellect. On peut approcher une connaissance de Dieu par le savoir. On peut savoir que la framboise s'appelle framboise. Ou alors, on peut s'attendre à ce que les yeux de notre cœur soient illuminés et qu'au goût de la framboise, il y ait quelque chose d'autre qui se passe à l'intérieur de nos cœurs. Quelque chose de plus profond, quelque chose de plus fort. Et donc, les yeux de notre cœur ne concernent pas une connaissance et un savoir de qui est Dieu, mais vraiment d'une affection vive, de quelque chose de chaud, de bouillant, de passionné, quelque chose de vivant. Je ne sais pas si c'est les bons endroits que je vais toucher quand je touche ma tête ou quand je touche mon ventre ou mon cœur, parce qu'on ne sépare pas, on est un être entier, mais vous comprenez l'idée de ne pas attraper Dieu et de connaître Dieu avec les yeux de notre intelligence seulement, mais de les attraper avec les yeux de ce qui est au plus profond de nous, ce qui nous fait bouger, ce qui nous fait vibrer. Et donc, est-ce qu'on sait des choses à propos de Dieu? Ou alors est-ce qu'on sait aussi nous émerveiller de ces choses qu'on connaît sur Dieu? Et c'est tout le propos de cette prière de Paul maintenant. Il rappelle aux Éphésiens l'importance de la connaissance de Dieu, que cette connaissance elle est possible que parce que Dieu se révèle à nous par son esprit, mais il va plus loin en plaçant cette connaissance hors du champ de l'intellect et en parlant du cœur. Et le cœur traverse l'ensemble de la parole de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, le cœur, c'est le plus souvent le centre de l'activité spirituelle. D'accord ? Il y a d'autres approches du cœur qu'on va trouver dans l'Ancien Testament qui sont totalement justes. Okay ? Le Nouveau Testament va se concentrer davantage en utilisant le mot cœur sur cette dimension, le centre de l'activité spirituelle. Et on a un nombre de versets là-dessus. Matthieu 5,8 qui va dire « Heureux les cœurs purs ». Car ils verront Dieu. 2 Timothée 2,22, recherche la justice avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Luc 8,15, ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent. Matthieu 13,19, ou Ésaïe qui dit « Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur ». On voit aussi dans Luc 6 ou dans Matthieu 15 que les choix du cœur, ils orientent la vie tout entière, hein, soit vers la pureté, soit vers la corruption, mais c'est vraiment du cœur que ces choix y viennent. Et cette pureté qui est une parure cachée du cœur, nous dit Pierre, elle est foncièrement connue que de Dieu, qui est le Dieu qui sonde les cœurs. Et ça, c'est dans Romains, c'est dans Luc, c'est dans Jean, c'est dans... Bon, je ne vais pas tout vous donner parce que vous... Prenez pas tous des notes sur les références. Et nous, on peut pas apprécier la vie du cœur, on peut pas sonder les cœurs comme Dieu, il le fait. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est dans Matthieu 7,20, c'est qu'on peut apprécier la vie cachée du cœur par les fruits visibles dans nos vies. Nous apprécions la vie de notre cœur, hein, on reconnaît un arbre à ses fruits. C'est un bon arbre parce qu'il porte de bons fruits, c'est un mauvais arbre parce qu'il porte de mauvais fruits. Et moi, ça m'a interpellé en préparant ce message de dire, mais quels sont les fruits visibles de l'émerveillement de mon cœur dans ma vie? Quels en sont les fruits visibles? Est-ce que ma louange est passionnée? Est-ce que j'ai un zèle pour Dieu? Est-ce que je plie le genou devant mon roi? Est-ce que j'ai une passion pour transmettre l'évangile autour de moi? Pour voir le royaume de Dieu avancer, progresser, pour voir des âmes sauvées. Tout ça, ce sont des fruits visibles, pas d'une connaissance de Dieu, mais des fruits visibles d'un émerveillement de la connaissance de Dieu. Et c'est tout le propos, encore une fois, de la prière de Paul pour les Éphésiens. La prière de Paul, elle s'occupe en premier lieu de l'état spirituel de ses lecteurs. Hein, et les choses de Dieu, elles peuvent être discernées que par ceux dont les yeux du cœur ont été éclairés. Donc voilà pourquoi on a besoin que le Saint-Esprit travaille dans nos cœurs et nous transforme, comme on l'a chanté encore ce matin. Il y a tellement de choses dans le monde qui nous entoure et dans notre chair, au-dedans de nous, qui peuvent faire une forme de film devant la connaissance de Dieu. Et Et ça peut venir entraver notre compréhension de qui est Dieu. On peut aujourd'hui avoir une compréhension de Dieu qui est impactée par notre connaissance de notre Père terrestre, par exemple, qui vient modeler l'image, ou alors notre conception de l'injustice qu'il y a dans le monde peut nous faire douter par rapport à la dimension du fait que Dieu est un Dieu d'amour, ou alors que Dieu est un Dieu tout-puissant. Il y a tellement de choses dans ce monde qui peuvent venir voler notre passion, notre émerveillement, et toucher notre compréhension. Et je nous encourage à être attentifs à ça. Qu'est-ce qui m'émerveille ? Qu'est-ce qui m'émerveille ? De quoi je m'émerveille aujourd'hui dans ce monde ? Qu'est-ce qui vient éveiller quelque chose de vibrant dans mon cœur quand je pense à ce que Dieu a fait ? Ou alors dans ce monde ? Voilà, je nous laisse cette question-là que je trouve importante. Et enfin, juste de dire que savoir que Dieu est Dieu, eh ben, ça n'aura pas forcément un impact fort sur l'expression visible de ma foi. Par contre, s'émerveiller du fait que Dieu est Dieu, ça aura un impact visible sur la manière dont j'exprime ma foi avec passion. Ok, vous me suivez tous jusque-là ? Ouais, super. Donc que le Seigneur envoie son esprit de sagesse et de révélation, qu'il illumine les yeux de notre cœur. Et Paul va dire que l'illumination des yeux de notre cœur va avoir trois destinations, et on va regarder ces trois petites destinations rapidement maintenant. Il parle de l'appel, l'héritage et la puissance. Il parle de ces trois choses-là. Et la première, c'est il dit, voilà, que je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Et on pourrait peut-être résumer son appel, hein, comme les premiers versets d'Éphésiens 1, le fond, notre relation de fils. Tout le début d'Éphésiens 1, avant d'arriver sur ces quelques versets-là, parle de cette dimension de fils et cette dimension de relation à Dieu le Père en tant que fils au travers de Jésus-Christ. C'est quelque chose de juste incroyable. Mais son appel, on peut le résumer comme ça. Et c'est quelque chose qui est juste incroyable, déjà, de connaître ça, de savoir que nous sommes fils et fille de Dieu. Je trouve que cette connaissance-là en elle-même est déjà quelque chose de juste incroyable, un rocher dans nos vies. Mais la prière de Paul, elle n'est pas simplement qu'on connaisse notre appel, mais qu'on connaisse l'espérance de cet appel. C'est-à-dire que si je m'arrête à me délecter d'être fils, je manque quelque chose. Et Paul, il encourage à aller plus loin. Il encourage à s'émerveiller de cette relation de fils en parlant de l'espérance qui s'attache à l'appel. Et c'est quoi cette espérance ? Si celui qui appelle est Dieu, si la position à laquelle nous sommes appelés, c'est celle de fils, et si cette position, elle est nôtre par Jésus-Christ, et elle est comme Jésus-Christ, hein, parce qu'on est en Christ. Donc quand on a parlé tout à l'heure que Christ est assis à la droite de Dieu, nous sommes en Christ, cachés en lui, dans cette position-là. À quoi est-ce qu'on doit s'attendre ? Sinon, à la gloire céleste éternelle. Notre relation de fils a pour espérance le fait de nous tenir dans la gloire de Dieu pour l'éternité, d'être participants de cette gloire divine. Voilà notre espérance, voilà notre émerveillement. De pas juste savoir que la framboise est framboise, mais d'y goûter, d'y prendre part. De pas juste savoir que nous sommes fils et filles par un dessein juste parfait que Dieu a prévu en son fils Jésus et par la puissance de son esprit. Mais de savoir que cette relation de fils, elle m'amène à être digne d'être participant de la gloire pour l'éternité. C'est pas juste des mots. Je nous invite juste à essayer de comprendre toute l'implication que ça veut dire que nous, pécheurs, pourrons nous tenir pour l'éternité grâce à Jésus, dans la gloire. Waouh ! Combien ce sera infiniment plus waouh que le chalet que j'ai pu avoir cet été ? J'aurais pas besoin de sortir sur le balcon pour faire waouh ou sur la terrasse. Participer à la gloire pour l'éternité. Passons pas trop vite là-dessus, les amis. Émerveillons-nous de ça. Je rappelle que la prière de Paul, c'est que l'Esprit illumine les yeux de notre cœur pour qu'on connaisse cette espérance-là qui s'attache à l'appel. On a besoin que le Saint-Esprit vienne éveiller en nous cet émerveillement de dire « Waouh, mais oui Seigneur, moi je veux participer à ta gloire pour l'éternité. » Et c'est plus que juste être fils. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. C'est ce que nous dit Galates. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Et ça, c'est Romain qui nous le dit. Nous sommes fils en vue de participer à cette gloire éternelle. Et ce n'est pas une prière qui est secondaire, parce que quelque part, on pourrait tous dire mais on connaît ça, on espère tous aller au ciel une fois qu'on mourra. Pas vrai ? Quand on a donné notre vie à Christ, on a tous déjà cette espérance de nous trouver au ciel. Eh bien, moi, je crois qu'on peut quand même se remettre un peu en question. Parce que moi, je crois que si cette espérance, elle était profondément nourrie en nous, on n'aurait pas autant à batailler avec les autres passions de ce monde. On n'aurait pas autant à batailler avec les tentations à droite, à gauche. On n'aurait pas tant à tomber dans les pièges de l'ennemi et qui met devant nous les pressions du monde, toute cette pensée pervertie aujourd'hui. Je crois que si profondément, par le Saint-Esprit, on apprend à s'émerveiller toujours plus de l'espérance qui s'attache à l'appel d'être fils de Dieu, alors nous vivrons de manière beaucoup plus libre des pressions de ce monde-là. Amen. Voilà pourquoi c'est important de prier ça, de prier « Illumine les yeux de mon cœur, Seigneur, pour que je sache quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel, pour que je réalise toujours plus cette gloire éternelle qui m'attend, qui fait que mes yeux sont captifs là-dessus plutôt que d'être captifs sur d'autres choses. » Ok. Donc pour qu'on sache quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, pour qu'on sache quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Plus compliqué. Bon, pour l'héritage, il ne suffit pas juste de connaître quel est notre héritage et quel est l'héritage. On peut approcher de manière intellectuelle en fait, hein, beaucoup de versets qui vont parler de notre héritage en tant que fils dans la Bible. Mais quand on dit... Là, encore une fois, Paul, il va plus loin. Il ne parle pas juste de l'appel, il parle de l'espérance qui s'attache à l'appel. Et là, il ne parle pas juste de l'héritage, il parle de la richesse du glorieux héritage. Il met nos yeux dans une dimension de « mais émerveillez-vous aussi de cette dimension-là ». Et moi, ce que je voudrais vous faire remarquer, c'est bête, mais c'est son héritage. Ce n'est pas le nôtre. Il n'est pas marqué qu'on doit se réjouir de l'héritage que nous avons en tant que fils, mais l'héritage que Dieu trouve au milieu des saints. C'est son héritage, ce n'est pas le nôtre. Et ça signifie que, d'une part, les saints forment l'héritage, ils en font partie, mais pas seulement, et que c'est aussi par et dans les saints que Dieu prendra son héritage. Et pour vous faire comprendre ça, je voudrais prendre Josué 3:11, quand Dieu, en fait, il fait traverser le Jourdain à Israël pour conquérir le pays de Canaan, pour conquérir ce pays promis qu'il voulait donner à son peuple. Il avait promis à son peuple qu'il lui donnait en possession ce pays-là. Dieu prend lui-même l'initiative au moyen de l'arche quand il dit « L'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. » Et la position était donc que Dieu y prenait possession du pays de Canaan au travers d'Israël. En les mettant, eux, en possession du pays, c'est Dieu qui prenait son héritage au travers d'eux. Vous comprenez cette dimension-là ? Et donc, quand il est question de l'héritage de Dieu, il est question du royaume de Dieu. Il est question du royaume de Dieu dans lequel nous prenons part, pour lequel nous œuvrons pour que ce royaume avance, et qui est la possession de Dieu. Qui est l'héritage que Dieu se prépare ? Dieu se prépare un héritage incroyable. Habacuc 2,14, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Psaume 37,29, les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais. Et de cette manière-là, Dieu prend possession de ce pays. Romains 14,11, car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. » Et donc les richesses du glorieux héritage de Dieu, c'est les merveilles de son royaume qui se répand au travers de nous. Émerveillons-nous du royaume de Dieu. Émerveillons-nous des œuvres que Dieu accomplit au travers de nous. Ne soyons pas juste des sachants que Dieu est à l'œuvre. Ne soyons pas juste des sachants que Dieu va venir restaurer toutes choses. Ne soyons pas juste des connaisseurs que la gloire de Dieu un jour va couvrir la terre. Mais laissons-nous toucher, laissons-nous émerveiller de à quel point ces promesses-là sont un héritage glorieux que Dieu est en train de se préparer et que nous en faisons partie. On fait partie de cet héritage-là. Et il est par nous, il est au travers de nous et Dieu le prépare dans nos cœurs. Et donc laissons-nous illuminer dans les yeux de notre cœur pour réaliser encore plus combien ce que nous vivons, ce que nous sommes en tant qu'Église est incroyablement précieux parce que ça participe à l'héritage que Dieu est en train de se préparer sur la terre en vue de la gloire céleste éternelle. L'espérance de son appel, la richesse de son glorieux héritage et enfin le dernier point qui est de la conséquence du fait que Dieu illumine les yeux de nos cœurs, c'est pour que vous sachiez quelle est l'infinie grandeur de sa puissance. Et merci Paul de finir par ça parce qu'il n'avait pas particulièrement parlé de la puissance de Dieu depuis le début d'Éphésiens. Et là, il y a tout un volet qui va aller jusqu'au début du chapitre 2 qui va toucher à la puissance de Dieu. Et c'est vraiment notre raison d'espérer, à la fois dans l'appel et l'héritage dont on vient de parler, à la fois dans l'espérance et dans la richesse glorieuse de cet héritage. Et encore une fois, il ne s'agit pas juste de savoir que Dieu est puissant, mais il s'agit de connaître l'infinie grandeur de cette puissance, de sorte qu'on puisse s'en émerveiller. On doit connaître la grandeur de la puissance de Dieu qui agit en faveur de nous qui avons cru. Quand on regarde à Christ, quand on regarde à ce qu'il a accompli, quand on regarde à la manière dont Dieu l'a élevé en gloire à sa droite, au-dessus de toute chose, on l'a lu tout à l'heure. Et il nous suffit justement de penser à cette résurrection de Christ et à son exaltation dans la gloire pour juste comprendre combien l'adjectif excellente ou infini ou qui surpasse tout et approprié quand on pense à la puissance de Dieu. Parce que la puissance de Dieu, elle est caractérisée non pas simplement par sa grandeur, mais par son excellente grandeur, par son infinie grandeur. Paul ne prie pas simplement que nos yeux s'émerveillent du fait que nous avons un Dieu qui est grandement puissant, mais d'un Dieu dont la puissance est infiniment grande, excellemment grande. Et encore une fois, Paul prie que nous soyons émerveillés et dans l'assurance parfaite que Dieu agit comme il veut, quand il veut, de la manière qu'il veut, au moment où il veut, mais qu'il agit de manière sûre et certaine parce que sa puissance est infiniment grande et que donc rien ne l'arrête. Et quand Jésus, hein, il est entré dans la mort, il s'est mis, entre guillemets, lui-même, en fait, il s'est mis selon le plan du Père, il s'est mis sous tout le poids de la puissance humaine adverse et aussi sous toute la puissance des ténèbres maniées par Satan et encore sous tout le poids du jugement divin dû au péché. Et pourtant, Dieu l'a sorti par sa puissance, il l'a sorti de tout ça et il l'a élevé en résurrection. Et ça fait très clairement ressortir la grandeur de la puissance de Dieu. Et je veux juste finir ce, 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 ce paragraphe en disant 1 Chronique 29:11, à toi éternel sont la grandeur, la puissance et la splendeur, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre t'appartient. À toi éternel sont le règne et l'autorité suprême. Voilà l'infinie grandeur de Dieu et on peut se joindre à cette prière-là et à cette déclaration. Soyons émerveillés, et c'est vraiment ma conclusion, et vous l'avez compris dans ce message, il est tout simple. Mais j'ai envie de nous encourager ce matin à nous émerveiller plutôt que savoir. Émerveillons-nous plutôt que sachons. C'est bon de savoir que nous sommes appelés à une relation de fils avec le Père. C'est meilleur de nous émerveiller, de prendre part à la gloire céleste pour l'éternité. Laissons-nous émerveiller par ça. C'est bon de savoir que Dieu se prépare un héritage par et dans les saints. C'est meilleur de s'émerveiller de la richesse et de la gloire du royaume de Dieu auquel nous prenons part. C'est bon de savoir que Dieu est tout-puissant, mais c'est meilleur de s'émerveiller de la toute-puissance de Dieu sur toute chose qu'il met en œuvre pour notre salut et pour sa gloire. Alors émerveillons-nous jour après jour de la connaissance de Dieu et prions que cet esprit de sagesse et de révélation nous fasse connaître Dieu de cette manière-là. Qu'il illumine pas les yeux de notre connaissance, mais qu'il illumine vraiment les yeux de notre cœur pour que nous sachions nous émerveiller comme des enfants des framboises au bord de la randonnée. Sachons nous émerveiller de ces choses-là. Et je vous assure que si on demande au Saint-Esprit d'œuvrer en nous de cette manière-là, nous allons éveiller, réveiller, ranimer une vie encore plus passionnée, une vie encore plus zélée, une joie encore plus grande et profonde de ce que Dieu fait autour de nous, en nous, au travers de chacun d'entre nous, avec une passion pour la connaissance du seul vrai Dieu. Et je veux juste nous encourager une dernière fois. Ne soyons pas pleins d'une connaissance tiède de Dieu. Mais soyons au contraire passionnément brûlants pour sa gloire, émerveillés de la connaissance du seul vrai Dieu. Amen. Alors ce que je voudrais faire pour finir ce message, je voudrais prier la prière de Paul pour nous, si vous êtes d'accord. Il l'a priée pour les Éphésiens et je crois qu'elle est juste aussi pour nous. Alors j'ai changé parce que je vais m'adresser je vais en faire une prière personnelle, mais je prie vraiment ces versets-là pour chacun d'entre nous. Okay ? Donc si vous êtes avec moi, je vous invite juste à vous lever, ouvrir vos mains, et puis on va prier cette prière d'Éphésiens pour chacun d'entre nous et puis pour notre communauté. Je crois qu'on peut aussi s'encourager les uns et les autres dans cette dimension-là à vivre une année d'émerveillement. Une année d'émerveillement. Père de gloire, Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, je prie que tu renouvelles sur nous ton esprit de sagesse et de révélation qui nous fasse connaître qui tu es. Je prie que cet esprit illumine les yeux de notre cœur pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel, quelle est la richesse de ton glorieux héritage au milieu de nous et quelle est l'infinie grandeur de ta puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de ta force envers nous qui croyons. Amen. 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 Fais ton œuvre, Seigneur, encore et encore dans nos vies. Et soyons des instruments par lesquels le Seigneur fait son œuvre dans la vie de nos frères et nos sœurs.